J'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Mais cela ne sera possible que si nous autres, disciples du Christ, nous avançons à notre tour, malgré nos limites trop évidentes, ce mystère dont Paul dit qu'il doit être porté à la connaissance des nations pour les amener à l'obéissance de la foi. C'est bien cette mission que ce soldat d'origine hongroise, qu'était saint Martin, est venu accomplir chez nos ancêtres du IVe siècle, après avoir été lui-même évangélisé. Les merveilles que l'Esprit Saint peut accomplir dans la vie de quiconque ouvre la porte de son cœur au Christ, nous pouvons les constater chez celui qui, n'étant encore qu'un catéchumène d'une vingtaine d'années, a été rempli de charité évangélique en partageant son manteau avec un pauvre dans la ville d'Amiens. Baptisé quelques mois après, il a quitté l'armée et s'est mis à l'école d'un autre grand saint, apôtre de la très sainte Trinité, saint Hilaire de Poitiers. Ressentant l'appel à la vie contemplative, Martin fonde alors le premier monastère de la Gaule, à Ligugé, près de Poitiers. Il devient ensuite évêque de Tours et entreprend alors l'évangélisation des campagnes du centre de la Gaule. Pour l'épauler dans cette tâche, il fonde un autre monastère à Marmoutier, dédié à Saint-Étienne. Il demande aux moines d'être à la fois des contemplatifs et des apostoliques. Totalement abandonné à la divine volonté, il prononce en 397 à Candes, sur le bord de Loire, alors qu'il est sur son lit de mort, entouré de ses frères, qu'il implore de rester avec eux, cette phrase célèbre. « Seigneur, si je suis encore utile à ton peuple, je ne refuse pas le labeur, que ta volonté soit faite. » Il était parti dans cette ville pour réconcilier les prêtres de la paroisse, qui étaient en conflit les uns avec les autres. Apparemment, le Seigneur a trouvé à cette heure-là que, ayant réconcilié les prêtres, son disciple avait suffisamment peiné dans le champ de la moisson. J'imagine qu'il devait chanter avec délice les versets du psaume 144 que nous avons entendu tout à l'heure. « Chaque jour je veux te bénir, sans fin je louerai ton nom. Il est grand le Seigneur et grandement fêté. » Pas de limite à sa grandeur. Dire le récit des merveilles de Dieu, la gloire de son règne, parler de sa puissance, voilà ce qui fut l'œuvre de sa vie. Il allait de soi que le serviteur ne peut servir deux maîtres, qu'il ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent, cette redoutable idole dont l'attrait pourrit la vie de tant de personnes à travers les siècles et encore aujourd'hui. Il avait partagé jusqu'à son nécessaire, à savoir son manteau. Peut-être certains de ses contemporains qui, comme les pharisiens, aimaient l'argent, avaient-ils à son endroit l'argent, la même attitude que les pharisiens vis-à-vis de Jésus, qui riait à son sujet. Ce passage d'évangile se situe juste après la parole du gérant habile, entendue dimanche dernier. Gérant qui étant renvoyé de son poste par son maître en raison de sa mauvaise gestion, fait venir successivement tous les débiteurs du maître et leur remet une partie de leur dette pour s'en faire des amis. D'où la conclusion donnée par Jésus à la parabole au début de l'évangile d'aujourd'hui, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » On pourrait être surpris d'entendre le Seigneur vanter des agissements frauduleux, mais au verset 8 qui précède immédiatement notre passage, Jésus a pris soin de qualifier le gérant à la fois de trompeur et d'habile, en mettant ces qualificatifs dans la bouche même du maître trompé. Le Seigneur, bien sûr, n'approuve pas la falsification des comptes, mais il loue l'habileté de Job. Et il regrette que les fils de la lumière ne soient pas aussi adroits dans leurs relations mutuelles. Il les invite à utiliser l'argent trompeur dans la perspective du royaume. Lorsqu'il dit « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles », nous pouvons penser à l'évocation du jugement dernier, lorsque le Seigneur, revenu dans la gloire, mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Si l'argent trompeur permet de pouvoir nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, visiter les malades ou les prisonniers, alors ces actions auront permis à ceux qui les accomplissent d'entrer dans la dynamique du royaume. Les reproches que nous avons entendus dimanche dernier le Seigneur faire à ces mêmes pharisiens et scribes, voici qu'il les répète à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Vouloir se présenter comme des justes, alors que le cœur est dévoré d'ambition. Rechercher toujours les places d'honneur et le prestige, alors qu'on prêche l'humilité et la charité. C'est un écueil dont nous savons bien qu'il menace très souvent les prédicateurs. Mais si on demande au Seigneur de nous maintenir dans une vraie humilité, alors lui, qui connaît les cœurs, saura nous en préserver. On connaît cette célèbre anecdote que rapportait lui-même, je pense, le père Lacordaire, dominicain renommé au XIXe siècle. Un brave homme est venu le trouver à la fin d'une homélie, dont le père pensait qu'elle était, après tout, assez brillante, pour lui dire aimablement « Ô Père, j'ai été très touché par votre sermon, surtout quand vous avez dit « point à la ligne, tournons la page » ou quelque chose dans le genre. » Dans le même ordre d'idées, le cardinal Christoph Schönborn, un autre dominicain, contemporain, archevêque de Vienne, rapporte un événement qu'il a vécu il y a plusieurs années au Sri Lanka, pays pauvre s'il en est. De plus, la paroisse qu'il devait visiter était, selon ses propres termes, une paroisse très, très pauvre. Les paroissiens s'étaient mis en quatre pour l'accueillir. Ils déclaraient avoir été reçus avec des honneurs inimaginables. On avait prévu des fleurs, des guirlandes, de la musique. On avait même refait un chemin avec du sable neuf. Lorsque l'archevêque est arrivé enfin à la proximité de l'église, un vieux père jésuite, qui en avait vu d'autres, qui était pasteur de cette paroisse, lui a chuchoté à l'oreille. « Ne croyez pas que ces gens font tout cela pour Christoph Schönborn. Ils le font pour le Christ. » Le cardinal raconte cela dans le cadre d'un commentaire sur l'évangile de dimanche dernier. Dans la suite de cette Eucharistie et de cette retraite, et en faisant mémoire de saint Martin de Tours, demandons donc au Seigneur de rechercher toujours la seule vraie sagesse, de pouvoir nous écrier comme l'apôtre Paul, « Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ et pour les siècles des siècles », et de pouvoir toujours chanter à la suite de notre Père saint François, « Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Amen. »